Deuxième attitude, alors beaucoup plus fréquente. Beaucoup plus fréquente, c'est de supprimer tout ce qu'il y a de trop mystérieux dans la religion. On en prend et on en laisse. On pratique le libre examen devant l'Écriture sainte. On lit l'Écriture sainte comme on apprend aux élèves à lire un texte de philosophie ou de littérature ou un journal. On critique. Oh, ça c'est trop fort, Saint-Paul. Je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. On lit l'Écriture en prenant ce qui nous semble raisonnable. C'est Voltaire. C'est tout le XVIIIe siècle français. C'est le siècle des Lumières. Quand on est déclairé, eh bien, on ne gobe pas tout dans l'Écriture. Et nous sommes en train d'assister, en Occident, à une résurrection du siècle des Lumières. Les gens redeviennent voltairiens. Combien de chrétiens, même parfois de catholiques du dimanche, qui disent « à l'époque actuelle, on ne peut plus croire ça ». C'est exactement le XVIIIe siècle. Et si vous faites un peu d'histoire, vous savez que la bourgeoisie française était devenue très voltairienne. Elle était profondément voltairienne au début du XIXe siècle. Et c'est la loi Falloux qui, par la création des écoles secondaires catholiques, a réévangélisé la bourgeoisie française. Et actuellement, la bourgeoisie française est en train de redevenir pleinement voltairienne. C'est l'une des raisons de la crise de l'Église en Occident. On n'ose plus croire à toute la vérité du dogme chrétien. Vous avez un tas de chrétiens qui ne croient plus à l'existence du purgatoire et de l'enfer, par exemple. Alors que c'est fondamental dans la foi chrétienne. Non, au XXe siècle, au XXIe siècle, on ne peut plus croire des choses comme ça. Alors ça a toujours existé dans l'Église. C'est l'hérésie. L'hérésie, ça vient d'un mot grec qui veut dire choix, hérésis. On choisit dans le texte ce qui plaît. On fait hors d'œuvre variée devant le texte de l'Écriture. Ou bien, comme on l'a dit, on va avec son caddie dans le monde des Écritures et on choisit ça, on met ça dans son caddie. Ça, non, ça ne m'intéresse pas. On se fait une petite religion à soi. C'est le rationalisme de tous les temps. Bon. Je supprime le mystère en le réduisant à un symbole, à une proposition raisonnable. Imagine que je vous fasse un discours qui vous fasse comprendre pleinement l'Eucharistie, je suis sûr d'être hérétique. Avec M. l'abbé Intel, on a compris l'Eucharistie. Ah ben, si vous avez pleinement compris l'Eucharistie, c'est que vous avez supprimé le mystère. Prenons un exemple simple. Combien de gens pensent Satan? Bon, c'est une façon symbolique de dire qu'il y a en nous des démons intérieurs de violence qu'il faut maîtriser. C'est la pensée de Malraux, agnostique, je comprends tout à fait. Mais ce n'est pas la pensée chrétienne. Pour moi, Satan, c'est vraiment un être personnel qui empoisonne la vie des gens. C'est un ange déchu. Mais nous sommes toujours tentés de réduire le mystère pour le transformer en un pur symbole. L'enfer, c'est Dieu qui fait semblant d'être méchant pour que nous soyons un peu meilleurs. Mais bien sûr qu'il n'y a pas d'enfer. Bon. Voyons quelques exemples de cette attitude rationaliste dont l'histoire de l'Église est remplie. Au début du IVe siècle, un prêtre d'Alexandrie, Arius, qui chantait dans les rues pour enthousiasmer la jeunesse, s'est mis à enseigner un christianisme plus raisonnable. Parce qu'au IVe siècle, on s'estime moderne, évidemment, par rapport aux gens du second et du IIIe siècle. Jésus, c'est fils de Dieu, dit l'Écriture. Oui, mais fils de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus, c'est simplement cet être génial et impeccable, innocent, qui a tellement été proche de Dieu qu'il a réalisé que nous étions tous enfants de Dieu et qu'il a prêché. Merveilleux Jésus. Mais bien sûr que Dieu ne peut pas engendrer un autre lui-même. Donc, il niait à la fois le mystère de la Trinité et le mystère de l'incarnation. Sa pensée a eu un succès fou dans le monde. Presque tout l'Occident est devenu arien, A-R-I-E-N-S, et non pas A-R-Y. Un tas d'évêques sont devenus ariens. Tous les barbares qui s'étaient plus ou moins convertis au christianisme sont devenus ariens, sauf les Francs. Et c'est comme ça que Clovis, sous l'influence de sa femme Clotilde, a pu devenir chrétien, sinon il serait resté arien. Presque toute la Gaule est devenue arienne. parce que c'était beaucoup moins mystérieux. Le christianisme a failli sombrer à ce moment-là. Et c'est pour ça que les évêques se sont réunis à Nicée et ont composé le credo que nous chantons à la messe du dimanche. Jésus-Christ est beaucoup plus mystérieux que ne le dit Arius, engendré, non pas créé. Tandis que Arius disait créé et non engendré. De même nature que le Père, vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière née de la lumière, et par lui tout a été fait. Il est vraiment Dieu. Et celui qui est mort sur la croix, ce n'est pas un homme habité par Dieu, c'est Dieu en personne, c'est le Fils de Dieu en personne. Ça change tout. L'islam a repris la thèse d'Arius et a réussi merveilleusement. L'islam, c'est le judéo-christianisme débarrassé de ce qui est trop mystérieux. Vous avez des chrétiens qui sont plus ou moins musulmans. Je comprends d'ailleurs, parce que c'est beaucoup moins mystérieux l'islam. Bon. Béranger, au XIe siècle, s'est mis à enseigner à Tours une doctrine sur l'Eucharistie qui a inquiété les chrétiens pendant 40 ans. C'était un homme très généreux qui s'occupait des pauvres. Je vous signale que les hérétiques sont souvent des gens très généreux et très apostoliques qui se disent, pour convertir les gens, on ne peut plus enseigner des choses comme ça. Ça ne passe plus. Il faut changer, il faut adapter, il faut comprendre. Bon. Donc Béranger a enseigné une doctrine de l'Eucharistie qui semblait un peu moins mystérieuse que ce qu'on enseignait d'habitude. Et il a fini par signer en 1099 un formulaire déclarant la présence substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Il a beaucoup discuté à l'époque avec le premier archevêque de Canterbury, ancien abbé de l'abbaye du Bec-et-Loin en Normandie, Lanfranc, qui a eu comme successeur le célèbre Anselme. Anselme a été le deuxième archevêque de Canterbury. Ou bien Hegel, le grand philosophe du début du XIXe siècle, qui a réfléchi toute sa vie sur le mystère de la Trinité. Et c'est pourquoi tous les livres de Hegel sont divisés en trois parties et subdivisés en trois parties. Quand on a des professeurs hegeliens, ils vous obligent à faire des dissertations en 27 points, parce qu'il faut toujours réfléchir par thèse, antithèse et synthèse. Eh bien, Dieu, le Père, c'est la thèse qui a engendré un autre lui-même, l'antithèse, le monde, qui est nécessaire à la prise de conscience de Dieu par lui-même. Vous êtes nécessaire à Dieu. Sans vous, Dieu ne connaîtrait pas un aspect de lui-même. Ce n'est pas idiot du tout. Mais ce n'est pas le mystère chrétien. Un grand nombre de professeurs de philosophie en France sont hegeliens. C'est-à-dire qu'ils enseignent le mystère de la Trinité à la façon de Hegel. Et on pense que Hegel est à l'origine de l'athéisme moderne. Le monde est nécessaire parce que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas ne pas créer le monde. Bon, on supprime le grand mystère de la création absolument libre de Dieu, et le mystère de la Trinité. Dieu est tellement heureux en lui-même qu'il n'a absolument pas besoin du monde pour exister, pour être heureux. Je m'attends à beaucoup de questions ce soir sur tout cela. N'ayez pas peur de les mettre par écrit. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'hérésie ? C'est toujours le choix d'un aspect de la vérité qui occulte l'autre aspect. Les mystères chrétiens consistent toujours à affirmer deux vérités apparemment contradictoires. Un seul Dieu en trois personnes. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est Dieu qui fait tout et pourtant nous sommes libres. Ce mystère, la négation de ce mystère est à l'origine de la réforme protestante. Luther a tellement été émerveillé en devenant professeur d'écriture sainte de découvrir dans l'Épître aux Romains à quel point Dieu faisait tout dans l'ordre de la grâce, qu'il a fini par nier la liberté. Érasme, le grand humaniste du XVIe siècle, disait « Le livre le plus important de Luther est celui dans lequel il nie l'existence du libre arbitre. » Parfaitement, dit Luther, Érasme a très bien compris « Je nie l'existence du libre arbitre parce que je ne vois pas comment c'est compatible avec la toute-puissance de la grâce de Dieu. » Bien moi, je ne vois pas non plus comment c'est compatible, mais j'affirme les deux. Je suis entièrement libre, et je l'affirme parce que si Dieu nous donne des commandements dans la Bible, c'est qu'il s'adresse à une liberté, sinon ces commandements n'auraient aucun sens. Nous sommes entièrement libres à 100%, alors que c'est Dieu qui fait tout à 100%. Et tant pis pour les mathématiques. Non. La foi est un don de Dieu, la foi est un acte libre. On reviendra éventuellement sur cette pensée rationaliste, qui est le fond, on peut dire, spontané de l'homme qui réfléchit. Parce que spontanément, devant un texte, on a l'esprit critique. Les études, d'ailleurs, vous encouragent à avoir cet esprit critique. Commenter et discuter ce texte. Ne prenez pas tout à la lettre. Quand on a la foi, on pense que si c'est Dieu qui parle, eh bien, il faut tout prendre à la lettre, même si je ne comprends pas.